vote ce matin, une victoire de Donald Trump pour commencer.
Oui, Donald Trump qui a forcé son voisin canadien à renégocier le traité de libre-échange nord-américain. C'est un incontestable succès, nous dit Le Monde, sur Internet. D'autant que Trump avait massacré ce traité et ne cachait pas son aversion pour le premier ministre canadien Trudeau. Eh bien, je le lis dans le journal Globe and Mail de Toronto. Ce sont les Canadiens qui ont fait les concessions pour sauver leur économie, mais ils ont ouvert le marché laitier. Ça ne va pas plaire aux fermiers canadiens. Les méthodes d'intimidation de Trump ont payé, me dit Le Monde. Voilà l'ambiance. Quand Libération, ce même jour, passe au tamis les supposés bons chiffres de l'économie américaine. Moins bons qu'il n'y paraît. Oui, mais qui a concédé? Je vois dans les échos un homme aux cheveux décolorés de fort bonne humeur. Boris Johnson, l'anglais, qui s'organise pour remplacer Theresa May. Lui que l'on compare souvent à Donald Trump. Oui, mais lige dans Libération, Johnson n'a pas eu d'aventure avec une star du porno. Ainsi vont les démocraties. Aussi loin que possible de la vulgarité politique, les unes de Ouest-France et de la Croix, deux journaux imprégnés de compassion chrétienne sur le tsunami en Indonésie, sont là pour nous rappeler à une humanité commune et blessée. Vous verrez dans le Financial Times et dans Libération cette même photo d'une femme hier sauvée des eaux, accrochée à un sauveteur. Il s'en faut d'un rien. À la une de l'humanité, vous verrez un homme sauvé, mais lui, avec ses cheveux rasés, donne une impression de puissance physique. Salah Hamouri, libre, titre l'humanité. L'avocat franco-palestinien Hamouri est sorti hier de prison en Israël après 403 jours de détention administrative. Et ce matin, l'humanité trouve en Palestine une raison d'espérer. Les échos, eux, flanqués du Figaro et de la Croix, pages économiques, veulent nous parler d'avenir. Ils nous annoncent l'âge de la voiture électrique. Vivons-nous le temps des belles innovations? On témoigne, c'est curieux l'histoire, dans la montagne de ce matin d'un dynamisme de jadis, car au viaduc de Garabit dans le Cantal, viaduc signé Gustave Eiffel, on vient de fêter les 130 ans du chemin de fer Paris-Béziers. En costume d'époque pour l'occasion, sommes-nous encore cette volonté?
Oh, passe Claude à la violence dans le football.
Au stade de Montpellier, comme prévu et redouté, quand à la fin du match, des supporters de Nîmes ont exhibé un morceau de la bâche dérobée aux ultras de Montpellier. Midi Libre raconte l'absurdité des affrontements et des gaz lacrymogènes au cœur d'un beau match. Mais ce n'est pas seulement le midi. Vous lirez dans Ouest France, dans le Courrier de l'Ouest et dans le Télégramme, comment samedi soir, un bus de supporters de Guingamp a été attaqué après un match remporté à Angers par l'équipe bretonne. Et donc, même dans l'Ouest tempéré, la passion est délétère. On sent souvent à lire nos journaux une impression d'impuissance face à la brutalité des hommes. Explicite sur Internet ce matin nous donne une raison de désespérer même de nos lois. Car le journal en ligne est allé interroger de prostituées parisiennes pour faire le bilan de la fameuse loi sur la pénalisation des clients que des défenseurs de prostituées contestent, relayés ce matin, tiens, par l'édition papier du New York Times. Eh bien, Anaïs, 43 ans, qui reçoit ses clients dans des appartements loués sur Airbnb, et Tété, 45 ans, transsexuel au Bois de Boulogne, le confirme, il y a un problème. Les clients sont plus rares, l'argent manque, on prend des risques. Le 20 août dernier, Anaïs en a payé le prix. Le client est arrivé, je lui ai demandé mon enveloppe, il a sorti son couteau, il m'a demandé de l'argent. Je n'en avais pas, il a voulu forcer un rapport non protégé, il m'a frappé. Tété n'ose plus travailler de nuit au Bois de Boulogne, mais se contente de se promener sur une avenue éclairée. Alors les policiers lui font la guerre. Je cite, pardon pour les enfants. J'ai fait 3 pipes à 20 euros, j'ai pris 3 amendes de 35 euros, donc je suis dans le rouge de 45 euros. À Bordeaux, Sud-Ouest me raconte une scène de tribunal correctionnel où David comparaît pour une bêtise, dit-il. En novembre 2015, ce bon père de famille sans histoire a fait monter dans son fourgon à Bègles une jeune prostituée étrangère et n'ayant pas assez d'argent, lui a placé un cutter sur la gorge et l'a contrainte à une fellation. David est reparti libre de l'audience au bras de sa femme.
Oui, sans transition, le souvenir d'un dessinateur pour terminer.
Qui était, nous dit Le Monde, un des derniers grands du dessin de presse après le massacre de Charlie Hebdo? Pétillon, évidemment, auquel Libération consacre deux belles pages où nous nous soulageons en revoyant l'élégance et la légèreté de cet homme qui avait si finement résumé l'exploitation de l'homme par l'homme dans une bande dessinée intitulée Le Baron Noir, un rapace qui raflait, sans dramatiser, des moutons gourmands qui croquaient encore l'herbe au moment de l'enlèvement pour en profiter jusqu'au bout. Parler des morts, et j'en termine, c'est souvent parler de nous. Dans Libération, sur Internet, il faut lire ce superbe texte d'une femme de lettres appelée Yaël Pachet. Elle part de sa famille et de son père, Pierre Pachet, un grand écrivain décédé en 2016, dont la plaque commémorative posée sur l'immeuble où il avait habité a été taquée vendredi d'une étoile de David pour bien signaler que cet écrivain était un juif. Alors Yaël, sa fille, elle aussi écrivain, parle de lui et de son nom, de cette famille Apachevski, un nom venu d'Odessa, devenu Pachet pendant la guerre. Pour se sauvegarder, le nom était resté, la paix revenue. Le nom de Pachet, dit-elle, disait à sa manière un silence, une retenue. Il prononçait le désir de s'assimiler, terme aujourd'hui tombé en désuétude, comme on se fond dans la foule pour y trouver un lieu d'être. Et nous comprenons ceci, Yaël Pachet, à propos de son père, nous parle de nos débats étranges. Ce jour, tiens, où Le Monde, c'est sur Internet, raconte les stratégies des immigrés pour ne pas donner à leurs enfants des prénoms qui iraient leurs handicapés, qui iraient les handicapés. Elle dit aussi, Yaël Pachet, le jeu des masques et des vérités, car Pierre Pachet, qui considérait les questions identitaires avec respect et ironie, savait marier ses mondes. Citation. Dans l'église où nous sommes rassemblés pour l'enterrement de notre mère, il s'excuse de nous tourner le dos et sortant une kippa de sa poche, il a lu le Kaddish, la prière juive des morts, tournée vers Jérusalem. C'était peut-être la seule fois de sa vie où il a fait un happening juif et c'était sublime. Sublime effectivement. Lisez sur Internet.
Merci Claude Askolovitch pour cette revue de presse.